Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Suivre Jésus de près n'est pas facile parce que la route qu'il choisit est le chemin de la croix. Nous ouvrons ce magazine par ce tweet du pape François pour la journée du Vendredi Saint, une journée marquée à Rome par la célébration de la Passion du Seigneur dans la basilique Saint-Pierre et par le traditionnel chemin de croix au Colisée. Un chemin de croix dont les méditations ont été écrites à la demande du Saint-Père par un évêque de terrain, bien connu pour ses prises de position contre la mafia calabraise dans le sud de l'Italie. Âgé de 66 ans, actuellement archevêque de Campobasso, Monseigneur Brigantini est un religieux originaire du Trentin, dans le nord de l'Italie. Il préside actuellement la commission épiscopale pour les problèmes sociaux, le travail, la justice et la paix. Il souligne que le visage du Christ éclaire toutes les souffrances de l'homme et que le visage de l'homme incarne la lumière. Lumière de Jésus, Olivier Bonnel.
Le visage du Christ est lumière, celui de l'homme est histoire. C'est le fil conducteur de ces méditations. Le long des 14 stations qui commémorent la montée de Jésus au Golgotha, le texte évoque les problèmes concrets du sud de l'Italie, le chômage et la précarité, les cancers dus aux déchets toxiques, la criminalité, la violence, la drogue, la surpopulation carcérale ou la corruption. Cette année, un ouvrier et un chef d'entreprise ont été invités à porter la croix, mais aussi deux SDF, des immigrés, des détenus et des ex-toxicomanes. Autant de représentants de réalités douloureuses. Mais dans ses méditations, l'archevêque italien a voulu aussi mettre en avant quatre figures positives. Simon de Cyrène, qui symbolise la solidarité, le bénévolat. Véronique, la douceur gratuite de ceux qui agissent non pas pour posséder, mais pour donner. Les femmes de Jérusalem, dont l'attitude n'est pas la commisération qui écrase, mais bien la compassion qui fait mûrir, la force qui s'enracine dans la douleur de l'autre et la rachète. Enfin, l'étreinte entre Marie et Jésus, Monseigneur Brigantini a voulu y associer toute la douceur et la beauté des mères qui ont perdu un enfant dans un accident ou par un délit mafieux, mais qui sentent que cet enfant n'est pas perdu tant qu'il est aimé. L'archevêque italien espère que ceux qui liront ces méditations ne se sentiront pas écrasés sous le poids de la croix, mais rachetés par elle.
Et c'est dans la basilique Saint-Pierre que le pape François a présidé vendredi en début de soirée la célébration de la Passion du Seigneur. L'office du Vendredi Saint qui se compose de la liturgie de la parole, suivie de la vénération de la croix et qui s'achève avec la communion. Selon l'ancienne tradition de l'Église, on ne célèbre pas de sacrement le Vendredi Saint, hormis le sacrement de pénitence et celui des malades. Après la messe du Jeudi Saint la veille, les autels ont été dépouillés de leurs nappes, les tapis ont été roulés et tout ce qui est beau ou superflu a été retiré de l'église ou caché. Il n'y a pas de fleurs, l'orgue, les instruments de musique et les cloches restent silencieux. Au Vatican, comme chaque année, l'homélie a été confiée au prédicateur de la maison pontificale, le père Raniero Cantalamessa. Une homélie centrée sur la figure de Judas, le traître, une figure qui attend à nous dire Cyprien Viette.
La trahison de Judas est l'un des drames les plus sombres de la liberté humaine. D'emblée, le prédicateur a voulu balayer la thèse selon laquelle Judas aurait été un militant, une sorte de Brutus qui tue Jules César en pensant sauver la République. Non, selon les évangiles, Judas trahit pour de l'argent. Et cela ne doit pas nous surprendre, car l'argent c'est l'idole par excellence, la racine de tous les maux. On trahit pour obtenir quelques pouvoirs ou quelques bénéfices temporels. C'est l'argent, a martelé le père Cantalamessa, qui est derrière le commerce de la drogue, l'exploitation de la prostitution, la corruption politique, la fabrication et le commerce des armes, la vente d'organes humains enlevés à des enfants. La crise financière est due en bonne partie à l'exécrable avidité d'argent de la part de quelques-uns. Faisant allusion aux scandales qui ont défrayé la chronique en Italie, le prédicateur a fustigé les administrateurs de l'argent public qui soutirent de l'argent de la caisse commune, ceux qui perçoivent des salaires ou des retraites faramineux et qui refusent de renoncer à leurs privilèges. La trahison de Judas continue dans l'histoire, mais, avertit le prédicateur, pas seulement dans les affaires retentissantes. Attention au Judas qui se cache au fond de nous, quand nous sommes infidèles à notre conjoint, à notre conscience, aux exigences de notre État. L'homélie du père Cantalamessa s'est achevée par s'en remettre à celui qui volontiers pardonne. Le plus grand péché de Judas ne fut pas d'avoir trahi Jésus, mais d'avoir douté de sa miséricorde.
À Jérusalem, des Palestiniens, chrétiens et des milliers de pèlerins ont commémoré vendredi la passion du Christ en participant au chemin de croix dans les ruelles de la vieille ville. Venus du monde entier, certains portant des croix en bois, ils ont suivi chacune des stations le long de la Via Dolorosa. Parmi les pèlerins figurait notamment une importante délégation de Serbes, des Russes et des Grecs, ainsi que des Ivoiriens, des Italiens, des Français, des Espagnols et des Argentins. La Pâque chrétienne coïncide cette année avec la Pâque juive. La police israélienne présente en force a limité l'accès à l'esplanade des mosquées par crainte de violence après les affrontements de ces derniers jours. Pour les chrétiens palestiniens, Pâques est célébrée dans l'attente de la première visite du pape François en Terre Sainte à la fin du mois de mai. Faute de permis délivrés au compte-gouttes par les autorités israéliennes, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu franchir le mur pour se rendre sur les lieux saints de Jérusalem. Les chrétiens de Bethléem en arrivent à penser qu'il est plus facile de se rendre aux États-Unis qu'à Jérusalem, pourtant si proche. Ils espèrent que le souverain pontife prendra leur défense et qu'il racontera leur drame au monde entier. Mercredi, devant les journalistes, le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Foitoile, a souhaité que cette visite ne vire pas au chaud. Il a invité la communauté chrétienne à écouter le message que le pape François veut lui délivrer. Mgr Toile a accepté de nous dire ce qu'il attendait de cette visite et de nous faire part de son sentiment sur cette Pâque, fêtée cette année en même temps par tous les chrétiens et par les juifs, avec pour résultat une ville de Jérusalem en état de siège.
Espérons que l'arrivée du Saint-Père va nous aider certainement, bien que sa visite est une visite pastorale pour commémorer la rencontre de Paul VI avec Athénagoras, mais certainement cette visite et avec ses discours et ses gestes aura une dimension politique et sur l'économie, la politique, la situation, soit en Jordanie, soit en Syrie, soit ici en Palestine, en Israël, et avec tant de murs qui se trouve dans le cœur de l'homme, outre les murs que nous pouvons voir. Certainement, espérons bien que le Saint-Père, avec sa personne, son personnage, son humilité, sa simplicité, soit lui-même un message pour les fidèles, lui-même avant les discours. Et puis, c'est une visite pastorale, n'attendons pas qu'il vienne pour résoudre tous les problèmes politiques de la région qui sont tellement grands. Mais nous espérons toujours, nous attendons sa visite avec joie, nous nous sommes préparés dans tous les sens, pastorellement, il y a des comités qui travaillent et espérons que ce sera une visite réussie.
Cette année, la Pâque catholique, c'est avec les orthodoxes et la semaine de la Pâque des Juifs.
D'un côté, nous sommes contents de fêter tous ensemble, d'avoir la joie de Pâques tous ensemble. D'un autre côté, pour Jérusalem, c'est une confusion totale. Les rues de Jérusalem ne sont pas faites pour tant de monde. Il y a trop de policiers, il y a trop de militaires, il y a trop pour la sécurité, pour l'ordre, il y a trop de militaires. Et ça enlève un peu à l'aspect spirituel normal d'une Pâque joyeuse, calme, sereine avec tout le monde là. Si vous rentrez à Jérusalem avec ces rues si étroites, avec tant de policiers qui remplissent là, et je ne sais pas. Alors d'un côté, nous sommes heureux de fêter ensemble, mais de l'autre côté, Jérusalem n'est pas faite pour tous ces gens, sans oublier les touristes, les pèlerins qui viennent de tout le monde.
Le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Foitoile, interrogé par notre collègue de la rédaction italienne, Giada Aquilino. Pour la première fois depuis 58 ans, l'office du Vendredi Saint a pu être célébré dans une église orthodoxe de la partie nord de Chypre, occupée par les Turcs. Le maire en exil de Famagouste, un grec orthodoxe, a estimé que cette célébration envoyait un message de réconciliation. L'île de Chypre est coupée en deux depuis l'invasion turque de 1974. Mais en raison des tensions communautaires, les services religieux n'étaient plus célébrés à Saint-Georges Exorinos depuis 1956, même si un réchauffement dans les relations a permis la célébration de deux messes matinales depuis décembre. Avant l'invasion turque, la cité médiévale de Famagouste était le principal port de Chypre et sa première destination touristique. En France, plus de 3600 adultes seront baptisés à Pâques. Les données statistiques recueillies chaque année par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat font état d'une augmentation régulière du nombre de catéchumènes. En 10 ans, la progression s'élève à 43%. Les femmes sont plus nombreuses, mais le groupe qui évolue le plus nettement est celui des étudiants. 45% disent avoir vécu dans un contexte familial chrétien, tandis que 42% affirment ne pas avoir grandi dans un milieu religieux ou ne pas connaître la tradition religieuse de leur famille. Enfin, 70% proviennent des grandes agglomérations urbaines et 30% d'une zone rurale. Et puis sachez que le Saint-Siège a offert 150 œufs de Pâques aux petits patients de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù. Les œufs emballés dans du papier aux couleurs vives ont été distribués aux enfants qui jouaient à la ludothèque et à ceux qui sont hospitalisés au service d'oncologie. Le 21 décembre, à l'approche de Noël, le pape François avait visité cet hôpital romain qui appartient au Saint-Siège depuis 1924. Le premier pape à l'avoir visité a été Jean XXIII en 1958. Jour J-9, la double canonisation du 27 avril approche, un grand jour pour l'Église dans le monde entier. Jean XXIII et Jean-Paul II, deux papes immensément populaires. Tout au long des journées qui nous séparent de cette date, nous vous proposerons de réécouter la voix de ces deux grands papes. Après le célèbre « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II que vous avez entendu hier dans cette émission, je vous propose aujourd'hui un extrait d'un message adressé par Jean XXIII aux Français le 11 février 1960 depuis le Vatican à l'occasion du 102e anniversaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes. Jean XXIII y invite les Français à approfondir et affermir leur foi.
Chers fils de France, Notre-Dame de Lourdes vous invite à affermir et à approfondir votre foi, sans vous laisser ébranler par les fausses opinions si répandues aujourd'hui. Qu'à votre foi s'unisse une confiance filiale en celle qui s'est montrée tant de fois dans votre histoire, votre avocate, votre refuge, votre protectrice. Continuez à lui adresser avec ferveur vos prières et confiez-lui les grandes tentations de l'Église, celle en particulier du Concile œcuménique, qui est maintenant au centre de nos préoccupations et dont nous attendons de si grandes choses pour le bien des âmes. Dans le vaste panorama de toutes les nations du monde, qu'évoque à notre esprit la perspective de ce Concile, nous pensons avec une affection particulière à la France. La Dulcis Francia, la France des apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, la France des apparitions de la Vierge à Lourdes. Nous demandons à Dieu pour elle et nous avons confiance qu'elle obtiendra, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, les grâces dont elle a besoin aujourd'hui. Grâce de foi et de courage, grâce de paix et d'union fraternelle.
C'était un extrait d'un message adressé par Jean XXIII aux Français en 1960. Et en ce vendredi saint, à quelques jours de cette double canonisation, nous avons choisi de revenir sur le rapport de Jean-Paul II à la souffrance, sur la manière dont ce rapport a été perçu, appréhendé et vécu. On connaissait Jean-Paul II, le géant, l'infatigable pèlerin, l'athlète de Dieu, sa silhouette énergique, sa voix décidée. Quelques jours avant sa mort, le pape, dont la parole galvanisante avait mu les foules, n'aura plus de voix. Mais le témoignage de cette souffrance muette aura plus de force que n'importe quel discours. Pour nous en parler, Mgr Renato Boccardo, archevêque de Spolète-Nursie. Organisateur des Journées mondiales de la jeunesse et des derniers voyages de Jean-Paul II, il a été un proche collaborateur du pape polonais. Interrogé par Manuela Affigi, il livre son témoignage et raconte le dernier Triduum Pascal de Jean-Paul II.
C'est un triduum vécu dans la dimension vraiment de la souffrance et de la presque l'identification du pape au Christ souffrant. C'est les images du chemin de croix au Colisée, présidé par le cardinal Ratzinger, et on voyait le pape qui tenait dans ses mains une croix et qui était vraiment identifié au Christ souffrant. C'était le moment où il donnait sa vie, encore une fois, comme il a donné sa vie tout au long de son pontificat, pour l'annonce de l'Évangile et le service de l'Église. Et c'est pas seulement intéressant, je dirais, c'est frappant de voir comment ce pape qui avait fait de la parole et des gestes un peu les caractéristiques de son pontificat, il suffit de penser à combien de discours, combien d'homélies il a prononcé pendant 27 ans, et puis sa manière de communiquer avec même des expressions corporelles, et bien peu à peu le Seigneur lui a bloquer la façon de faire des gestes, de bouger et la possibilité de parler. Donc ça a été un parcours de dépouillement, ce qui fait penser au Christ sur la croix, pendant le chemin de croix et puis sur la croix, qui a été dépouillé pas seulement de ses vêtements, mais de toute sa dignité et de toute la puissance dont il était porteur, afin que la puissance de Dieu puisse resplendir dans sa nudité et dans sa pauvreté.
Alors le rapport de Jean-Paul II à la souffrance humaine est assez particulier. Comment la concevait-elle ?
Et en 98, lorsque l'ONU célébrait l'année internationale des personnes âgées, le pape a écrit une lettre aux personnes âgées. Et il disait, depuis plus de 20 ans, sur le siège de pierre, je vois que les forces diminuent, que la santé s'affaiblit, et donc on sent la fatigue et le poids de l'âge. Et néanmoins, il est beau de donner toute sa vie jusqu'au bout pour le service du Christ. Eh bien, je pense que c'est la clé qui nous permet d'interpréter le rapport de Jean-Paul II à la souffrance. Donc même dans la faiblesse, même dans la maladie, on peut servir le Christ, on peut annoncer l'Évangile. Nous savons combien la souffrance du pape, qui n'était pas cachée, au contraire, elle était presque, on peut dire, exposée publiquement, ça a été un message de l'Évangile. Donc, par la souffrance, on contribue au salut du monde. Et la vie elle est belle, elle est importante de la vivre jusqu'au bout, même quand les forces diminuent.
Vous parlez d'une souffrance exposée publiquement. Certains ont même reproché le fait qu'elle ait été trop justement exposée, qu'elle ait été trop médiatisée. Ça a été source de polémique. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, c'est vrai que dans notre monde où tout souligne la beauté, la force, l'efficacité, même du corps humain, de voir un corps blessé, de voir la faiblesse, de voir la dépendance totale de quelqu'un d'autre, eh bien c'est un contre-témoignage, apparemment. Moi je pense que, au contraire, le pape nous a dit que on ne peut pas mesurer la beauté d'une vie simplement en considérant son efficacité et son indépendance. Il y a un mystère de la souffrance qui doit être proclamé, finalement c'est le message de la Semaine Sainte. C'est le Christ souffrant qui sauve le monde, qui porte le péché du monde. Eh bien, nous, les hommes, nous sommes appelés, même dans des conditions très difficiles, telles que celles de la souffrance et de la maladie, de participer et de partager ce mystère de la souffrance pour s'unir au Christ et pour sauver le monde.
Est-ce que vous pensez que cette souffrance exposée, cette souffrance visible, a parlé au monde et est-ce qu'elle a parlé aux jeunes ?
Je pense que absolument. Absolument. C'était un message frappant, inattendu, mais très efficace. Je vous donne un exemple. On était à Longchamp en 97, lors de la Journée mondiale de Paris, quand le pape n'était pas encore tellement malade et fatigué. Pourtant, déjà, les signes de la maladie étaient très visibles. Un jeune homme, en faisant le commentaire de ce qu'il avait vécu, me disait, eh bien, quand le pape était en bonne forme, on comprenait qu'il était le porteur d'un message fort, d'un message percutant. Et maintenant, on voit le pape affaibli et malade. Le message n'a pas changé. J'ai compris, ajoute ce jeune homme, j'ai compris que ce qui est important, ce qui importe, c'est le message, au-delà de la personne qui le porte. Moi, je pense que c'est vraiment ce que Jean-Paul II voulait faire passer.
Vous avez été un proche collaborateur du pape Jean-Paul II, vous avez été organisateur de JMJ, vous avez été organisateur également de ses derniers voyages. Que ressentez-vous à l'approche de sa canonisation ?
C'est un sentiment d'émerveillement et de gratitude. J'ai vécu avec un saint. Normalement, quand quelqu'un arrive à la canonisation, il s'agit de quelqu'un qui est éloigné dans le temps. On a lu quelque chose de cette personne, on en a entendu parler, on ne l'a pas connu personnellement. Là, c'est quelque chose un peu, je dirais, d'extraordinaire. Nous avons connu, nous avons parlé, nous avons mangé avec cette personne qu'aujourd'hui l'Église nous donne comme modèle de vie chrétienne, comme quelqu'un qui a suivi le Christ et qui a essayer de mettre en pratique ce que l'Évangile demande à tout chrétien. Donc je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, une sainteté qui est à la portée de tous. Si quelqu'un a pu faire comme ça, pourquoi pas moi ? Or le pape, c'est vrai, c'était un homme, on dit, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de remarquable. Moi je pense que c'était une personne humaine, comme chacun de nous, qui a pris au sérieux l'Évangile.
Monseigneur Renato Boccardo raconte sa collaboration avec Jean-Paul II dans un livre témoignage « Dans l'intimité de Jean-Paul II, 20 regards sur un homme d'exception » aux éditions des Béatitudes. Je vous rappelle que samedi soir, le pape François présidera la veillée pascale à partir de 20h30 dans la basilique Saint-Pierre. À cette occasion, il baptisera 10 catéchumènes venus venus d'Italie, Bélarus, Sénégal, Liban, France et Vietnam. Dimanche, le souverain pontife n'aura pas de concélébrant à ses côtés pour la messe de Pâques. Il ne prononcera pas d'homélie, mais il délivrera son message pascal avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi. Contrairement à ses prédécesseurs, le pape François ne présentera pas ses vœux en plusieurs langues. Toutes ces célébrations sont retransmises en direct avec commentaires en français sur le player de Radio Vatican. Alors je vous invite plus que jamais à nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.